Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une de ce journal, un espoir pour toutes les personnes atteintes d'un cancer du poumon. De nouvelles thérapies permettent de prolonger l'espoir de vie des victimes. C'est l'un des enseignements du Congrès mondial du cancer à Chicago. À suivre, l'ouverture du procès ce matin d'une Française à Bagdad, une mère de famille de 27 ans accusée de terrorisme et à qui la justice irakienne reproche d'avoir rejoint les rangs de Daesh. Dans l'actualité de ce dimanche également, la fin du G7 finance au Canada, des Canadiens qui n'apprécient pas les nouveaux tarifs douaniers fixés par leurs voisins américains. Côté sport, on retiendra la brillante victoire de Castres hier soir devant Montpellier en finale du championnat de France de rugby et la sortie de tous les Français au tournoi de tennis de Roland-Garros, Français hommes, car heureusement Caroline Garcia sauve l'honneur en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Jean-Pierre Blimeau à la fin de cette édition.
France Inter.
Une note d'espoir donc au Congrès mondial du cancer qui se tient en ce moment à Chicago. Congrès qui réunit pas moins de 40 000 cancérologues venus du monde entier. De l'espoir donc concernant le cancer du poumon. Si ce fléau tue chaque année plus d'1,5 million de personnes à travers le monde et alors que 40 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France, il semblerait que là où les constats ne laissaient aucun espoir à court terme, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, eh bien on assiste de plus en plus à des survies de plusieurs années à l'origine de cette évolution de nouvelles thérapies. Chicago, Véronique Julien.
Première révolution en 2010, l'apparition des thérapies ciblées pour les 15% de patients qui ont des altérations génétiques identifiées à l'origine de la tumeur et qui présentent des métastases. Avec la chimio, leur survie ne dépassait pas un an. Ils peuvent espérer vivre aujourd'hui près de 10 ans. Le deuxième coup de tonnerre dans la prise en charge, il arrive il y a 4-5 ans avec l'immunothérapie qui réactive les défenses immunitaires du patient. Là encore, une partie de ceux qu'on pensait condamnés retrouvent la forme, certains pendant plusieurs années. Jean-François Morère dirige le département d'oncologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif.
La plus belle illustration de l'efficacité de l'immunothérapie jusqu'alors pour moi est un patient d'environ 80 ans, cancer du poumon métastatique. Nous avons pu le traiter par deux injections d'immunothérapie. Le bilan réalisé un mois après a montré une quasi-disparition de la tumeur et de ses métastases. Un an après, la tumeur continue à régresser de façon significative. Ce type d'observation était impensable il y a seulement quelques années.
Et ce n'est pas fini. Le Congrès démontre dans plusieurs études cette année que la combinaison chimio et immunothérapie est encore plus efficace avec plus de patients réactifs. Quand la tumeur est opérable, on a montré aussi qu'une immunothérapie prescrite avant la chirurgie permet de réduire la taille de la tumeur au point bientôt sans doute de ne même plus devoir opérer.
Le cancer et les dernières innovations en matière de traitement, un sujet sur lequel vous reviendrez longuement, Éric Delvaux, dès 8h20 en compagnie de votre invité, le cancérologue Jean-Marie Michaud.
C'est un procès singulier qui va s'ouvrir ce matin à Bagdad, le procès en appel d'une Française, mère de famille de 4 enfants, elle risque la peine de mort.
Déjà condamnée à 7 mois de prison pour entrée illégale dans le pays, Mélina Bouguedir comparaît cette fois-ci devant la cour de cassation irakienne pour acte de terrorisme. La justice de Bagdad lui reproche en effet d'avoir rejoint avec son mari les rangs de Daesh, un procès que va suivre pour nous Sophie Parmentier.
Ce sera son deuxième procès. En février, les magistrats bagdadis n'ont condamné Mélina Bouguedir qu'à une peine de prison de 7 mois pour entrée illégale sur le territoire, mais la cour de cassation irakienne a décidé qu'il fallait rejuger plus sévèrement cette jeune mère de famille française. À 27 ans, elle risque désormais la pendaison ou une peine de prison à vie. Car elle est maintenant soupçonnée d'être venue à Mossoul en connaissance de cause en 2015 avec son mari suspecté d'avoir été un membre de Daesh. Mélina Bouguedir a-t-elle sciemment soutenu l'organisation État islamique ou n'a-t-elle été qu'une femme soumise, obligée de quitter la région parisienne pour suivre son époux et ne pas abandonner ses enfants ? Depuis qu'elle a été arrêtée, ses 3 aînés de 4, 6 et 7 ans ont été rapatriés en France. C'est avec son bébé de 16 mois que Mélina Bouguedir se présentera ce matin devant la cour pénale centrale de Bagdad. Pour la première fois, elle sera soutenue par ses 3 avocats français qui espèrent un acquittement. Bagdad, Sophie Parmentier, France Inter.
Sophie Parmentier que nous retrouvons plus longuement juste après le journal des sports à 8h17 sur les conditions de ce procès. Quant aux 3 avocats français présents sur place et qui n'auront que quelques minutes seulement pour s'entretenir avec la jeune femme avant l'audience, ils condamnent vivement les propos du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui avait qualifié jeudi sur LCI Mélina Bouguedir de terroriste de Daesh.
Le G7 Finance vient de s'achever au Canada sur une protestation unanime contre la politique commerciale menée par les États-Unis.
Alors qu'un certain nombre de dossiers devaient être abordés par les ministres des Finances du G7 à quelques jours seulement de la rencontre des chefs d'État prévue au Québec la semaine prochaine, c'est finalement la question des tarifs douaniers imposés par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium qui s'est imposée dans les discussions. L'occasion pour les Canadiens de souligner qu'ils n'avaient pas l'intention de se laisser imposer ces nouveaux tarifs douaniers par leurs voisins. Une correspondance de Pascal Garry-Collin.
Inquiétude, frustration, le vocabulaire employé par le ministre canadien des Finances pour qualifier ses sentiments face aux mesures américaines protectionnistes concernant l'aluminium et l'acier étonne. Le Canada n'a pas l'habitude, en effet, d'oser répliquer quand son puissant voisin du Sud lui cherche des noises commerciales. Une fois n'est pas coutume, ce calme partenaire est d'ailleurs passé à l'attaque en imposant aux États-Unis des tarifs douaniers de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium. Ce dossier a monopolisé une grande partie de la réunion des ministres des Finances, éclipsant au second rang les sujets prévus comme l'égalité entre les sexes et la classe moyenne. Le représentant canadien a quand même tendu la main à son homologue américain. Ainsi, Bill Morneau a souhaité la reprise des négociations entre les partenaires. Les dirigeants du G7 pourront en discuter dans moins d'une semaine, puisqu'ils se rencontrent les 8 et 9 juin au Québec. À Québec, Pascal Garry-Collin pour France Inter.
La tension reste très vive au Proche-Orient où l'aviation israélienne a frappé dans la soirée une douzaine d'objectifs du Hamas. Il s'agissait, selon l'armée hébreuse, d'une riposte à des tirs de roquettes contre le territoire israélien parti de la bande de Gaza.
En France, le retour de l'uniforme à l'école, ce sera pour la rentrée prochaine dans 6 écoles élémentaires publiques de Provins, c'est en Seine-et-Marne.
Polo, pull bleu et veste bleu marine, tels seront les composants de l'uniforme imposé aux élèves donc de ces 6 écoles publiques élémentaires de Provins dès la fin des vacances de la Toussaint. Une décision votée par plus de 62% des parents d'élèves. Décision qui est loin de faire l'unanimité, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Margot Steve.
La majorité des parents est pour, en effet, mais du côté des enfants, ce n'est pas vraiment le cas.
Ben, c'est nul. Enfin, c'est comme si on remontait en arrière. On est en 2018, on n'est pas en 1900, je sais pas combien.
Les 759 élèves de primaire vont donc devoir porter une tenue identique à la rentrée, sauf peut-être la fille d'Isabelle. Pour cette maman d'élève, l'uniforme est une atteinte au principe même de l'école républicaine.
On est l'école publique, ça il faut pas l'oublier, école publique, école gratuite. Donc un parent doit pouvoir mettre son enfant à l'école sans avoir au préalable à mettre la main au portefeuille pour acheter un uniforme. Ça veut dire que pour scolariser un enfant à Provins, il faudra soit payer un uniforme, soit payer une école privée.
Mais pour le maire Les Républicains, Olivier Lavenca, l'argument ne tient pas.
On propose un trousseau de 10 pièces à 145 euros. Ça me semble tout à fait raisonnable. Dès le deuxième enfant, la ville prendra à sa charge 50% du coût. Le CCAS de la commune interviendra pour les familles qui en ont vraiment besoin. Et on propose un fractionnement du paiement en 3, 6 ou 10 fois. Ça nous semble tout à fait honnête et le coût ne me semble pas être une question essentielle.
La mairie va faire un appel d'offres dans les prochaines semaines pour trouver un fournisseur. Les uniformes devraient donc arriver pour le retour des vacances de la Toussaint.
Margot Steve a noté que la fin du port obligatoire de l'uniforme dans les écoles françaises remonte à la fin des années 60. Passe ton bac d'abord, mais bac BACH comme le musicien, c'est le nom d'un festival qui se tient tout ce week-end à Toulouse. Un festival original qui ne se prend pas au sérieux, mettant à l'honneur le compositeur Jean-Sébastien Bach et qui a la particularité d'offrir à la population toulousaine des mini-concerts de 30 minutes. Un festival qui, pour son 10e anniversaire cette année, a été rebaptisé Flashback, Stéphanie Glazis.
Les chiffres sont vertigineux. 110 000 spectateurs l'an dernier. Cette année, il y aura 100 concerts dans 30 lieux différents, de la chapelle de l'Hôtel Dieu de Toulouse, en passant par un salon de la préfecture ou des cafés-bars. Pour Michel Brun, directeur artistique de Flashback, c'est back to business, retour en scène ce week-end.
L'idée de base de ce festival, c'est que la musique classique d'une manière générale, mais tout particulièrement la musique de Bach, est une musique qui est accessible pour tous les publics et que donc c'est pas du tout la peine de faire partie de cette petite élite autoproclamée qui pense avoir accès à cette musique, mais tout le monde peut avoir accès à cette musique, tout le monde peut apprécier Jean-Sébastien Bach.
Les musiciens, eux aussi, sont enthousiastes, comme la violoniste Martine Tarjavel.
Ben oui, c'est accessible parce que d'abord les lieux sont accessibles et puis c'est des concerts qui sont courts. Donc une demi-heure, c'est vrai que même pour des enfants ou pour des gens qui ne sont pas franchement attirés par la musique classique, ils vont se retrouver à ne pas voir passer le temps parce que c'est très court. Le temps qu'on s'installe, qu'on joue, il se passe un truc, ça va très vite et après on disparaît et on va ailleurs et on rejoue. Et voilà, donc il y a une espèce d'émulation dans le mouvement aussi.
Il ne vous reste plus qu'à attraper un un programme et à avoir de bonnes jambes pour courir d'un endroit à l'autre pour ce flashback qui ne regarde pas dans le rétroviseur. Toulouse, Stéphanie Glazis, France Inter.
Passe ton bac d'abord, c'est à Toulouse et jusqu'à ce soir. En attendant, c'est la fin de ce journal et c'est à vous Éric Delvaux.
C'était le journal de Serge Martin.